dans un mot de prière. Père éternel, nous abordons un sujet qui est tellement important. C'est, je pense, le sujet le plus important des Saintes Écritures. Lorsqu'on parle d'adoration, on parle de toute notre relation avec toi. C'est un sujet qui est simple dans la Bible, mais c'est un sujet qui est tellement important, Seigneur. Et ma prière, c'est que tu m'accordes la grâce d'honorer ta parole en exposant vraiment ta pensée. Et ma prière, Seigneur, c'est que par ton esprit, tu viennes saisir nos cœurs et que nous voyons la beauté, Seigneur, de l'adoration, que nous nous soumettions entièrement à ta parole et qu'on puisse devenir des adorateurs qui te plaisent, Seigneur. Viens éclairer notre intelligence ce matin. Je pense spécialement à ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissances dans l'Ancien Testament. Viens éveiller, Seigneur, leur intelligence afin que leur esprit soit bien ouvert pour saisir le plus d'informations possible. Et viens, Seigneur, encore une fois, toucher nos cœurs avec la beauté de ta parole. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Alors, simplement à titre d'information pour moi, qui a acheté ou va acheter le livre et donc va suivre en lisant le livre? Donc, c'est toi qui me remplaces quand je suis absent, c'est ça? C'était simplement pour avoir une idée, parce que je suis près des notes du livre, d'accord? J'ajoute des commentaires personnels. Oui, Marisol? Bonne question. Le livre n'est pas nécessaire. Si tu as pris une copie des notes, il y avait des notes aux deux extrémités. Peut-être ceux qui se joignent au cours, qui n'étiez pas là la semaine dernière, je vous demanderai sur la feuille qui va circuler pour les présences d'ajouter votre adresse courriel parce que Danny envoie chaque semaine, comme si je suis en avance, il va vous envoyer mes notes à l'avance, puis si je suis en retard, il va vous envoyer mes notes au début de la semaine. Mais c'est comme ça, si vous voulez vous bâtir un fichier Word, vous pouvez déjà deviner que plus souvent, vous allez l'avoir en retard, d'accord? Mais vous allez pouvoir vous bâtir votre propre fichier avec ça. Non, moi, je les apporte toujours ici, de toute façon. Vous pourrez les prendre ici. En principe, ce que vous allez pouvoir faire, comme je vous dis, ça serait juste de prendre le stock, excusez-moi, le matériel informatique, puis vous bâtir un fichier à vous si vous voulez ranger ça dans vos archives. Si vous n'êtes pas monsieur, madame papier, bien, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Vous allez pouvoir l'archiver puis y retourner éventuellement. Le livre n'est pas nécessaire. Le livre va être beaucoup plus complet. Par exemple, ce matin, avec 55 minutes environ, on fait un survol de l'Ancien Testament. Pour vous donner une idée, parce que la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est que nous allons regarder ensemble les mots clés dans l'Ancien Testament qui nous parlent d'adoration. Là, on va voir le système, on va voir comment Dieu a instauré la relation, tout ça. C'est ce qu'on survole ce matin. La semaine prochaine, nous allons nous attarder seulement aux mots. Quels sont les mots qui sont liés à ça, à l'adoration? Et puis ensuite, on va commencer déjà à faire la transition avec le Nouveau Testament. D'accord? Alors, c'est sûr que, par exemple, ce matin, je vous présente en 55 minutes 50 pages, je crois, de matériel, ou 35 pages qu'il y aurait dans le livre, qui essaie de résumer quand même beaucoup de choses de l'Ancien Testament. Alors, ceux qui veulent lire le livre, il est en français, il est en anglais. Dans les notes, vous avez dans les notes de la semaine dernière, vous avez les références du livre en anglais ou en français. Je vais juste mentionner quelque chose que j'ai mentionné la semaine dernière aussi. Si vous manquez une rencontre, à la fin du cours, Monsieur Famelard, qui fait circuler la feuille de présence, va déposer toutes les copies de notes qui restent dans une chemise au nom de ce cours-ci au kiosque d'information. Vous avez manqué une semaine, vous pouvez tout simplement aller au kiosque d'information, aller demander de regarder dans la chemise au nom du cours, et puis il devrait avoir une copie des notes. Si jamais il en manque, bien là, à ce moment-là, on vous en réimprimera. Encore une fois, en principe, vous la recevez par courriel aussi, si vous avez une adresse courriel. Psaume 147, versets 19 et 20. C'est lui qui communique sa parole à Jacob et ses commandements, ses lois à Israël. Il ne l'a jamais fait pour aucun autre peuple. Aussi, ses lois leur restent inconnues. Loué soit l'Éternel. Dans ces deux versets-là, on a, je dirais, l'élément le plus important et le plus difficile à comprendre pour la majorité de nos contemporains sur l'adoration. On va le développer un petit peu ce matin, on va le développer au cours des prochaines semaines. Qu'est-ce que vous voyez ici comme principe de base en ce qui a trait à l'adoration dans ces deux versets-là? Une personne qui pourrait nous dire quel est l'élément très important qui ressort. Oui. Alors, c'est Dieu qui vient vers nous, c'est Dieu qui initie, c'est Dieu qui se révèle. D'accord? Tout ce que nous faisons comme adorateurs est en réponse à Dieu. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter? OK. Alors, Dieu ne le fait pour aucun autre peuple. Dieu a choisi un peuple. Et donc, ça, c'est un autre des éléments qu'on va souligner ce matin. C'est l'adoration est toujours une réponse à une initiative de Dieu, selon les Écritures. Et là, si vous connaissez un peu d'autres religions, d'autres systèmes de pensée, il y en a un grand nombre qui ne vont pas du tout dans ce sens-là. Il n'y a pas de révélation. Révélation générale. Tu conçois Dieu comme tu le vois dans la nature, puis tu essaies de saisir Dieu. Ce n'est pas Dieu qui parle. Selon les Écritures, l'adoration est toujours une réponse à une initiative de Dieu où il se fait connaître. Et ce qui ressort aussi de ces versets-là, c'est que Dieu se fait connaître à ceux qu'il veut. Dieu choisit. D'accord? Une des choses qu'on va voir ce matin et la semaine prochaine, et pourquoi est-ce qu'on commence dans l'Ancien Testament, c'est parce qu'il y a des principes fondamentaux par rapport à la relation avec Dieu qui sont exposés dans l'Ancien Testament et qui vont souvent être transformés lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, mais qui sont présents. Alors, si je prends juste cette idée-là de la révélation, c'est très, très fort dans le Nouveau Testament. Toute la question de l'élection d'un Dieu qui choisit, qui se fait connaître à toi. Pensez aux paroles du Seigneur Jésus qui dit « Nul ne vient au Père s'il ne l'attire à lui. » Qui est l'initiateur de la relation? C'est Dieu. D'accord? Lorsqu'on lit l'Ancien Testament pour une première fois, là, je sais, je vous vois, je connais un peu la majorité d'entre vous. Vous avez probablement tous déjà lu la Bible au moins une fois au complet. Vous avez eu des cours sur l'Ancien Testament, tout ça, donc c'est moins étranger pour vous. Mais pour encore beaucoup de chrétiens, lire l'Ancien Testament, spécialement les premiers livres de la Bible, les livres sur les lois, tout ça, c'est assez drabe, comme on dit au Québec. Hein? C'est des choses qui semblent loin de notre conception de l'adoration. Je pense que naturellement, on dirait que l'adoration, c'est comme une espèce d'état où tu parles à Dieu puis tu sens quelque chose avec Dieu. Puis ceux qui ne le disent pas comme ça voudraient que ce soit ça. Ceux qui donnent une autre définition, c'est parce qu'ils se résonnent avec les Écritures. Mais dans le fond, je veux dire, quand tu as un bon temps avec Dieu, c'est quand « Wow! » Puis tu n'as pas d'autres mots pour mettre autour de ça presque. Et pour la majorité d'entre nous, ça ressemble à ça. C'est ça qu'on, c'est ça les bons moments. D'accord? Alors, lorsque j'arrive dans l'Ancien Testament, puis je commence à lire l'Ancien Testament, puis je vois des choses qui sont très organisées, un système culturel avec des sacrifices, puis tout ça, puis le temple, puis une élite qui va s'approcher de Dieu, puis oh, ça va tellement loin de ce que nous, on va vivre comme adoration. Maintenant, pour comprendre l'adoration dans le Nouveau Testament, il faut que je sois capable de comprendre où sont les racines de ce qui m'est enseigné dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on parle de la présence de Dieu, quand Jésus dit « je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est l'idée de présence de Dieu. Mais la présence de Dieu, c'est quoi? C'est l'Ancien Testament, c'est le tabernacle, c'est le temple, Dieu au milieu de son peuple. D'accord? Alors, il faut que je sois capable, pour puiser dans ça, pour venir contempler Dieu et la beauté de ce qu'il a fait pour nous, il faut que je sois capable d'aller puiser aux racines. D'une part, donc il y a une continuité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et il faut aussi que je sois capable de dire en quoi ça s'est transformé. Alors, deux termes que je vais utiliser un petit peu ce matin. Quand on parle de l'adoration à la lumière de toute la Bible, on doit être capable d'identifier la continuité qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et la discontinuité. Il y a beaucoup de choses qui ont été profondément transformées avec la venue de Christ. Et si je veux Si je veux devenir un adorateur qui va contempler les richesses et les beautés de Dieu, il faut que je sois capable d'expliquer c'est quoi les continuités, les discontinuités, les transformations lorsqu'on passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Ça va, ça? Donc, il y a des thèmes bibliques qui se trouvent à travers toutes les Écritures qui sont fondamentales pour comprendre l'adoration. La révélation, on vient de le mentionner, la rédemption, l'alliance entre Dieu et Israël, la vocation d'Israël. Ces quatre thèmes-là sont essentiels dans l'Ancien Testament. Et si je veux bien comprendre c'est quoi l'adoration dans le Nouveau Testament, il faut que je saisisse ça. D'accord? La révélation, la rédemption, l'alliance entre Dieu et son peuple et la vocation du peuple de Dieu. Quel est l'appel du peuple de Dieu? Comme prédicateur, lorsque je cherche à appliquer des passages, puis que j'ai l'impression que les gens vont toujours juste s'appuyer sur la grâce et qu'ils n'ont pas à répondre à la grâce, qu'ils n'ont pas à passer à l'action. Mais des thèmes puis des concepts qui viennent à mon esprit, à moi, pour essayer d'expliquer à l'Église, au peuple de Dieu, qu'il doit répondre, c'est l'alliance. C'est la vocation. Israël a été sauvé dans un but. Lequel? Est-ce qu'on a une vocation comme chrétien? D'accord? Je m'en retourne à mes racines. Et donc, ces éléments-là qui sont présents dans l'Ancien Testament vont se poursuivre à travers tout le Nouveau Testament et sont vrais encore aujourd'hui. Ils ont été transformés, plusieurs d'entre eux. Avec la venue de Christ, il y a des choses qui ont été transformées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus là. Alors, tout chrétien qui conçoit la grâce comme quelque chose sur laquelle tu peux t'asseoir sur la grâce et tu n'as pas apporté de fruits. C'est le sujet de mon message ce matin, tantôt. Toute personne qui pense comme ça n'a pas compris l'alliance dans l'Ancien Testament, puis n'a pas compris en quoi l'alliance se retrouve dans le Nouveau Testament. N'a pas compris la vocation d'Israël, puis à quel point Israël scandalisait Dieu lorsqu'il ne respectait pas sa vocation et quelle est notre vocation à nous. Je sais, là, les gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances dans l'Ancien Testament, je parle peut-être un petit peu chinois, là, mais les autres, vous pouvez déjà voir des références. On va essayer de le brosser rapidement ce matin. Quatre thèmes fondateurs dans l'Ancien Testament qui sont importants pour le Nouveau aussi, pour nous aujourd'hui. La révélation, la rédemption, l'alliance entre Dieu et Israël, la vocation d'Israël. Il faut comprendre, dans le contexte de l'Ancien Testament, ces thèmes-là, pour ensuite saisir comment ils continuent et comment ils se transforment dans le Nouveau Testament ou comment ils arrêtent. Et certains d'entre eux arrêtent parce qu'il y a des choses qui ont été accomplies et donc qui n'ont plus lieu d'être. Un petit commentaire que j'ai apprécié de la part de l'auteur aussi au milieu de la page 2. L'histoire montre que les chrétiens ont parfois commis l'erreur d'appliquer directement des termes et idées de l'Ancien Testament au culte dans l'Église. Alors, si vous lisez des livres de louanges, entre autres, vous lisez des livres de louanges, vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas compris en quoi ça s'est transformé. Il y a de la théologie qui est dans les confessions de foi où j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est transformé avec la venue de Christ. Qu'est-ce qui a arrêté? Puis on les trouve fortes, ces images-là, puis on les trouve belles, fait qu'on les amène, puis boum, on veut les laisser comme ça. Et on réalise pas qu'en faisant ça, on atténue l'œuvre de Christ à la croix. Bien, toute la fonction de prêtre, toute la conception du pasteur. Vous savez, quand les gens viennent me voir et me disent « Ouais, mais Yannick, toi, tu as une connexion spéciale. » Ça veut dire que ce que Jésus a fait, c'est incomplet. Oui, des livres de chants, des livres de chants. Oui. Pas du tout. Ça veut dire qu'il faut lire avec discernement, parce qu'il y a des images qu'on prend. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour ceux qui connaissaient bien la musique de louange. Comment est-ce qu'il s'appelle? Non, c'était en anglais. C'était un super worship leader qui était très populaire il y a à peu près 7-8 ans environ. Puis, dans un des chants, dans un des CD, il dit « Ce soir, nous allons reenactment, on va mettre en scène la dédicace du temple. » Ron Kenoly, vous vous rappelez de ça? J'ai trippé sur ce CD-là. Là, après ça, je réfléchissais et je me disais, pourquoi tu veux faire ça? Ça n'a comme pas rapport. Jésus a tout fait ça, c'est tout fini. Tu es en train d'essayer de revivre quelque chose que Jésus a fait 100 fois mieux. On n'a pas besoin de retourner à ça. On a besoin de voir en quoi Jésus a fait ça de manière plus glorieuse. Fait que ça serait un exemple. Les gens qui vont approcher le pasteur et qui vont dire « Toi, tu as une connexion spéciale. » Bien, fondamentalement, c'est une mauvaise compréhension de l'Évangile. C'est gros, là. Vous comprenez? Oui, peut-être qu'on peut voir dans les Écritures que Dieu va parler aux anciens. Paul s'adressait aux anciens. Jésus parle aux anciens ou à l'ange. C'est pas clair dans l'Apocalypse. Alors, il y a une responsabilité. On a plus de responsabilité. Une connexion spéciale. Ouh! On est dans l'Ancien Testament, là. Ça parle beaucoup de ton adoration à toi, là. Ça veut dire que lorsque tu t'en vas dans la prière, puis tu t'en vas prier Dieu, tu n'as pas le sentiment que tu as le même accès à Dieu que le pasteur a. C'est gros par rapport à l'Évangile. C'est énorme par rapport à l'Évangile. Jésus-Christ est venu le déchirer, le voile. C'est fait. D'accord? Pas lui qui l'a déchiré physiquement, vous comprenez? La voie est ouverte. Alors, c'est des exemples, admettons. Où il faut être capable de comprendre la discontinuité, la transformation qui se passe. On va passer beaucoup plus de temps dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Alors, on va pouvoir le voir. Mais ça veut dire que... Vous savez, dans le Nouveau Testament, Paul nous dit qu'on doit s'instruire par des cantiques. Ça ne se peut pas s'adresser au peuple de Dieu et ne pas enseigner. D'accord? Quand vous écoutez de la musique, vous êtes enseigné. Assurez-vous que c'est biblique. OK? Puis j'aime la louange contemporaine, c'est pas ça la question. Assurez-vous que c'est biblique, qu'on a compris l'Évangile, qu'on n'atténue pas ce que Christ a fait à la croix en restant dans des patterns de l'Ancien Testament. D'accord? Juste parce que les images sont belles, sont fortes. Et c'est ça le danger, honnêtement. Maintenant, si je prends ces belles images-là pour dire en quoi Christ est supérieur à ces images-là, oh, peut-être que là, je suis sur la bonne voie. Adoration et révélation. Je pense qu'une des choses qui est difficile à accepter actuellement lorsque vous parlez avec des Québécois, en général, je sors du milieu chrétien, je pense que lorsqu'on parle avec des Québécois en général, une des choses qui est difficile à accepter, c'est que on ne peut pas connaître Dieu s'il ne se fait pas connaître à nous. Alors, toutes les personnes qui veulent concevoir Dieu tel qu'ils le veulent n'acceptent pas l'idée que je dois m'en tenir au texte où Dieu s'est révélé. D'accord? Maintenant, c'est un élément fondateur dans l'Ancien Testament. Le Dieu qui se dévoile. Le Dieu qui se dévoile à Moïse. Le Dieu qui se dévoile à son peuple, d'accord? Le Dieu qui se dévoile à Élie, c'est le Dieu qui se dévoile, c'est lui l'initiateur. C'est un élément très, très fort dans l'Ancien Testament.
Je pense que c'est restrictif, Yannick, de dire que c'est juste au Québec, c'est universel. Je veux dire, c'est sûr qu'on parlait de notre réalité, mais ça donne tout le temps que l'homme a essayé d'accéder à Dieu depuis Babel. Où est-ce que c'est que l'homme a essayé par ses propres forces d'accéder à Dieu plutôt que de reconnaître que c'est lui qui nous reconnaît?
Oui, je vais juste le répéter pour l'enregistrement. Claude mentionne que c'est probablement pas juste québécois, mais c'est universel. Avec l'exemple de Babel, par exemple, de tout temps, l'homme a cherché à atteindre Dieu de par lui-même, de par ses propres forces. C'est vrai, mais avec le rejet au cours du 20e siècle des Écritures comme texte inspiré de Dieu, je pense que c'est encore plus présent. Ça fait partie maintenant du langage populaire de tout le monde. Avant, c'est quelque chose qu'on trouvait chez l'élite. Là, c'est avec tout le monde. Tout le monde veut concevoir son Dieu comme il le veut. Alors, sous le catholicisme, les gens ne cherchaient pas à concevoir Dieu comme ils le voulaient. Je ne vous dis pas que c'était le Klondike, là, mais ils ne cherchaient pas à définir Dieu comme ils le concevaient. Mais c'est vrai, de tout temps, ça a été l'orgueil de l'homme de dire « Non, je n'ai pas besoin de toi, je vais le faire comme moi je veux. » Maintenant, cette idée-là d'aller me soumettre à la révélation de Dieu et de dire « Dieu est comme ci ou il est comme ça selon les Écritures », c'est extrêmement difficile à transmettre lorsqu'on veut parler de Dieu à des Québécois. C'est difficile. Et il y a une partie de cette indépendance-là qui entre dans l'Église aussi. Chaque fois que vous allez parler avec des chrétiens et qu'ils vont chercher à définir Dieu sur la base d'une expérience sans avoir une préoccupation. D'accord? Je n'ai pas de problème avec l'expérience. Hein? Je n'ai aucun problème avec l'expérience. Mais sans avoir une préoccupation réelle de dire « Est-ce que c'est Dieu qui s'est révélé à moi? Est-ce que ce que j'ai vécu est conforme avec la parole de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient d'ailleurs? Est-ce que ça vient de ma chair? Est-ce que ça vient du diable? » Et ça, vous allez le voir, vous allez le rencontrer. Comme je le mentionnais la semaine dernière, une des richesses de notre époque avec Internet, c'est qu'il y a beaucoup de blending, pour le dire en français. D'accord? On se mélange, on voyage sur le web, tout ça. Et puis, on communique ensemble. Il y a une richesse qui vient à travers cette culture-là, mais il faut savoir ce que les Écritures disent. Il faut avoir du discernement à travers ça. Et donc, je pense que c'est aussi un peu dans l'Église. Un peu dans l'Église de vouloir dire, je vais définir Dieu selon mes termes et conditions. Ultimement, dans des grosses épreuves, on va avoir tendance à le faire. Il va arriver un moment où on va dire, la Bible dit ça, et ça, je l'ai rencontré chez certains chrétiens, même qui ont un bon fondement. Je sais que la Bible dit ça, mais Dieu veut que je fasse ça. Ça serait l'extrême, d'accord, qu'on trouverait dans nos milieux. Parce que la personne a décidé qu'elle s'en allait selon son désir à elle. Puis elle va dire, c'est ça que Dieu veut. D'accord? Donc ça, c'est un élément qui est distinctif, je suis à la prochaine page, c'est un élément qui est distinctif du Dieu de la Bible, de l'adoration selon les Écritures, de ce que vous allez trouver dans d'autres religions en général. Cette idée qu'on ne peut pas connaître Dieu s'il ne se révèle pas à nous. D'accord? Toute la méditation orientale, toute la philosophie bouddhiste, c'est tu vas le trouver à l'intérieur, Dieu. Donc, c'est toi qui vas le trouver. Il est là, tu as juste à le découvrir toi-même. Ce n'est pas lui qui initie, ce n'est pas lui qui se révèle. Et lorsque j'évangélise quelqu'un, quand je parle du Seigneur avec quelqu'un, je me bute à ça très, très rapidement. La personne connaît Dieu parce qu'elle a des certitudes sur la base de son expérience. S'il choisit à qui il veut se révéler, est-ce que ce serait du favoritisme? Je pense que je suis à l'aise avec un Dieu qui fait du favoritisme. Parce que je crois dans l'élection, il n'y a pas de problème. Mais Dieu se révèle à travers sa parole et à travers ses messagers à tous les hommes. D'accord? Et ça, c'est le privilège qu'on a, c'est qu'on est là pour annoncer l'Évangile à tous les hommes. Alors Dieu nous dit dans, Paul nous dit dans Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. D'accord? Non, et c'est pour ça qu'on doit aller annoncer. On doit apporter le message à tout le monde. Alors ça, c'est un fait distinctif de l'adoration selon les Écritures, c'est qu'on répond à un Dieu qui se révèle à nous. Un élément intéressant, dans le haut de la page 3, cette révélation ne se limita nullement à des phénomènes surnaturels ou à des manifestations de la puissance divine dans la nature. Là, je m'en vais vers l'Alliance. Si vous regardez beaucoup de religions dans le monde, si vous regardez des cultes païens de l'époque, ce sont des phénomènes, d'accord, dans lesquels il peut y avoir éventuellement des paroles, mais pas une alliance qui va être traitée entre Dieu et les hommes. Une alliance où il y a un engagement des deux parties avec des bénéfices des deux parties, c'est ça une alliance, d'accord? Disons plus basique, c'est ça. Alors ça, c'est un élément qui est unique au sein des Écritures, le fait que Dieu vient traiter une alliance. On le trouvait chez les rois avec leur peuple, mais pas chez leur Dieu avec eux. Leur Dieu était grand, il devait être craint, c'est tout. Il ne venait pas traiter une alliance avec eux. Et ça, c'est un élément distinctif. Et on le trouve même avant la loi, on le trouve avec Noé, Dieu parle à Noé d'alliance qui va traiter avec lui. Donc ça, c'est quelque chose qui va rester tout le long. L'adoration selon la Bible se distingue en ce qu'il s'agit d'une réponse à l'initiative de Dieu, soit sa révélation, et cette révélation prend la forme d'une alliance entre Dieu et ceux qui l'adorent. Fait que je vais vous demander juste de prendre 30 secondes puis de m'écrire selon vous c'est quoi une alliance. Ce n'est pas une question piège, je voudrais que vous voyez comment votre pensée évolue pour ceux pour qui ce ne serait pas suffisamment clair. À travers les prochaines semaines, ça va évoluer. Qu'est-ce qu'une alliance selon vous? En général, j'ai fait une alliance avec mon épouse. Vous l'écrivez, vous faites juste l'écrire. Vous avez deux lignes pour l'écrire sur vous. C'est pour vous, là. C'est pas, je cherche pas de réponse. Dieu a initié la révélation. C'est le Dieu qui se révèle, c'est le Dieu qui se dévoile. Dieu se dévoile et lorsqu'il se fait connaître, il choisit à qui il se fait connaître. Et il se fait connaître pour s'engager avec ces gens-là dans une alliance. Et ça reste jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Il faut comprendre comment ça se transforme, qu'est-ce qui change, comment ça évolue. Mais quand je vais chercher à devenir un adorateur qui plaît à Dieu, je vais me voir comme quelqu'un qui est entré dans une alliance. Et je vais chercher à honorer ce Dieu-là en honorant cette alliance. La comparaison avec le mariage est très, très, très évidente. J'ai fait une alliance avec Esther. D'accord? Il y a un engagement. Et chaque fois que je vais honorer cette alliance-là, les vœux que j'ai faits le jour de mon mariage, Esther va se sentir honorée. Chaque fois. Alors, lorsque je suis dans le Nouveau Testament, puis qu'on prend le repas du Seigneur, qui symbolise la nouvelle alliance scellée par le sang de Christ, en son sang, en son corps brisé, je dois réaliser ce que je suis en train de faire ici. Là. Je m'en viens honorer cette alliance. C'est comme ça que Dieu va être réjoui de ce que je suis en train de faire. Il faut que je sois capable d'aller puiser dans ces racines-là dans l'Ancien Testament. Cette alliance-là a été donnée premièrement au mont Sinaï. Alors, Sinaï, c'est la plus importante manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu pour le peuple d'Israël. Ça se passe là. Jamais ça va être comparable à ça. Et il y a une manifestation de la gloire de Dieu. C'est au mont Sinaï que Dieu dit à son peuple comment il voulait être adoré et quelles sont les conditions. Je vous demande de répondre à la question qui suit. On est vraiment en avant du Nouveau Testament. Comment Dieu désire aujourd'hui que nous l'adorions? Quelles sont les conditions? Faites juste prendre une minute pour jeter vos idées sur le papier. Comment Dieu veut que nous l'adorions? Quelles sont les conditions? À quelles conditions je vais être un adorateur qui plaît à Dieu? Juste prendre une minute pour l'écrire. Alors, ce que je fais ce matin, c'est que je survole très, très vite des thèmes majeurs. On va tous les revoir, ces thèmes-là, lorsqu'on va aller plus en profondeur dans le Nouveau Testament. D'accord? Mais quand je vais être dans le Nouveau Testament, je désire que vous soyez capables juste de faire des références, de vous rappeler qu'ils étaient là dans l'Ancien Testament pour qu'on puisse voir en quoi c'est semblable et en quoi c'est différent. Il y a l'alliance qui est donnée au Sinaï. Dans cette alliance-là, il y a cette idée de rédemption qui est là. Je suis au bas de la page 3. L'adoration du peuple de Dieu est habituellement présentée comme celle d'un peuple racheté. On a vu l'idée que c'est Dieu qui est l'initiateur, c'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui choisit, mais c'est Dieu qui rachète. Non seulement il prend l'initiative de la révélation, mais il prend l'initiative du rachat aussi. D'accord? L'adoration agréée par Dieu ne doit rien à l'intuition, à l'imagination humaine, mais tout à l'initiative divine. Si je suis incapable de connaître Dieu par moi-même sans qu'il se révèle à moi, si je deviens un adorateur parce qu'il m'a choisi, il a choisi de se faire connaître à moi, si j'étais perdu sans qu'il me rachète, il n'y a pas de place pour que j'imagine Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de place pour la créativité. Ça, c'est deux choses complètement différentes. David était extraordinairement créatif dans sa louange. D'accord? Il a écrit de la musique. Il a fait des liens entre des idées, puis il en a fait des psaumes, des poèmes. Il y a beaucoup de place pour la créativité. Il n'y a aucune place pour l'intuition dans la connaissance de Dieu. Pas selon la Bible. Et moi, je vous assure que cette idée-là est inacceptable pour beaucoup de chrétiens actuellement sur la terre. Parce qu'ils ont développé une expérience de Dieu par laquelle, à travers l'intuition, ils vont découvrir qui est Dieu. Je vais essayer de m'expliquer un petit peu. Si je pense à travers une épreuve, je suis atteint d'un cancer. Il y a des moments de découragement profond. Je dois aller dans la prière, je suis abattu. Et je découvre Dieu à travers ça. Si je le fais selon les Écritures, je vais découvrir en quoi ce qu'il m'a fait connaître dans sa Bible est vrai. Il est là. Il est présent. Il est encore souverain. Il ne m'a pas abandonné. Et ces vérités-là vont devenir vraiment partie prenante de ma personne, de mon caractère. Quand les gens vont me voir après, ils vont me dire, Yannick, tu n'es plus la même personne. Donc, j'ai eu une expérience avec Dieu dans la prière. Pas de problème avec ça. C'est évident qu'on doit faire ça. Qu'est-ce que Job a vécu? Job a... Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'avais entendu, mais là. Puis dans le fond, quand Dieu s'est manifesté à lui, est-ce que Dieu lui a donné une seule explication vraiment sur le problème? Pourquoi Satan est après moi et tout ça? Non, Dieu a dit, je suis Dieu. Puis Job a dit, je me tais. Et là il a vécu une expérience profonde avec Dieu. Il n'y avait aucune place à l'intuition dans ça. C'était conforme à la révélation de Dieu. Moi, je vous dis qu'il y a beaucoup de chrétiens que vous côtoyez, dans le fond de leur trip, ils découvrent Dieu intuitivement autant qu'ils le découvrent à travers les Écritures. Je ne remets pas en question leur salut. Je ne remets pas en question le fait qu'ils ont saisi ou non l'Évangile. Tout ce que je dis, c'est que ce n'est pas comme ça que Dieu le veut. Ce n'est pas comme ça que Dieu le conçoit. À moins que vous me disiez que vous êtes un prophète, vous avez reçu une parole de Dieu. C'est vérifiable et c'est digne de châtiment si ce n'est pas le cas. D'accord? Si on parle d'un prophète comme l'Ancien Testament nous le donne, si on parle d'un prophète comme les apôtres qui devaient écrire les Saintes Écritures, et donc c'est une révélation de Dieu, c'est bon, il faut que tu sois prêt à passer au pilori là, si tu n'es pas dedans. D'accord? Je ne parle pas de la notion de prophétie qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Oui, Annie. Annie demande, c'est quoi la différence entre les deux? Je vais expérimenter des vérités que j'ai connues dans la Bible. Ils vont prendre une nouvelle dimension dans ma vie. Je vais comprendre la paternité de Dieu en ayant mes enfants dans mes bras. Lorsque je me suis inquiété parce que mon fils avait désobéi, puis qu'il a peut-être mis sa vie en danger, puis à travers ça, je vis de l'inquiétude, puis là, je prie pour mon fils, puis après ça, quand je m'en fais faire mon culte, je dis au Seigneur, je comprends tellement mieux, Père, comment je peux te donner du souci lorsque je commence à jouer avec le péché. Puis là, il y a des vérités des Écritures qui rentrent dans mon cœur puis qui prennent place. D'accord? C'est biblique. Expérience. Il y a des vérités des Écritures qui sont... Le Saint-Esprit est en train de les déposer dans mon cœur. Ça me façonne dans ma personne, dans mon caractère. Quand je vais faire face à une nouvelle épreuve, il y a des choses que j'ai vécues avec Dieu. Il y a des vérités qui sont venues façonner mon caractère. Et ça va changer ma manière de réagir. Pas de problème avec ça. Une intuition, c'est... Je suis dans la prière, puis Dieu me révèle quelque chose que je ne pourrais pas valider avec les Écritures, que je ne chercherai pas à valider avec les Écritures. Écoutez, l'exemple extrême de ça que moi j'ai vécu dernièrement. Il y a une jeune fille qui est arrivée ici un dimanche soir, j'ai commencé à jaser avec elle, tout ça, on avait du bon temps. À un moment donné, elle commence à me parler de la prière. Puis là, elle me parle de la prière. Puis elle me dit comment la prière fonctionne. Puis là, à un certain moment donné, je l'ai arrêtée. Là, j'ai dit... Est-ce que tu réalises que ce que tu me dis là, ce n'est pas biblique? C'est vraiment pas biblique. On va regarder les Écritures ensemble. Je n'ai pas pu me rendre jusqu'à l'endroit où on ouvrait les Écritures parce qu'elle m'a dit, je sais que c'est vrai, Dieu me l'a montré. D'accord? Alors, cette personne-là a vécu des choses dans la prière qui lui ont fait connaître des choses sur Dieu et sur la volonté de Dieu. Souvent, ça va être dans la dimension de comment Dieu nous dirige. On va, en fait, je vais vous le dire bien franchement, souvent c'est un entêtement pour faire ce qu'on veut plutôt que faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Et donc Dieu m'a montré que je devais aller vers telle personne qui n'est pas chrétienne, admettons. C'est la bonne personne pour moi. Ben c'est pas compliqué, là. On va juste ouvrir la Bible 5 minutes, on connaît la réponse. Est-ce que Dieu m'entend, est-ce qu'il se contredit? Mais vous côtoyez des chrétiens régulièrement qui fonctionnent comme ça dans leur vie chrétienne. Ils expérimentent des choses avec Dieu. Dieu met des choses sur leur cœur. Dieu leur montre des choses. Dieu ne peut pas être comme ça. Dieu est comme ça. Puis quand tu les écoutes assez longtemps, tu as l'impression, et je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas chrétiens, tu as l'impression que tu parles avec un non-chrétien. Tu as presque l'impression d'entendre Dieu est amour, donc il ne peut pas envoyer personne en enfer. Je le sais, Dieu est amour. Oui, il va falloir trouver une autre explication, parce que c'est clair dans la Bible que ça existe, le châtiment éternel. Il va falloir trouver une autre explication. Est-ce que ça t'aide? Oui, c'est le diable, c'est la chair qui va s'en servir. Mais je pense que ça vient fondamentalement de l'idée que la vérité est en nous. D'accord? Je pense que c'est juste une autre version de la vérité est en toi, sois à l'écoute. OK? Puis les gens qui vivent certaines expériences comme ça ont vécu quelque chose de tellement high sur le plan émotif qu'ils vont chercher ça. Lorsque je regarde David, je vois que je devrais pouvoir vivre des choses pas mal high avec Dieu. Lorsque je lis le premier commandement, je vois qu'il y a une passion avec Dieu. Donc, je dois poursuivre ça. Ça ne sera pas dans le silence et dans le néant où je vais vivre une expérience. Ce n'est pas là que je vais le trouver. Je sais que c'est vague, mais vous comprenez aussi que je me retiens un peu pour ne pas commencer à pointer. D'accord? J'essaie juste de nous équiper à avoir du discernement et à respecter aussi les gens. En tout cas, si c'est trop vague, vous viendrez me voir après. Page 4. On n'avance pas vite. On avance. Un des livres les plus importants pour comprendre l'adoration selon les Écritures, c'est le livre de l'Exode. D'accord? C'est là que tout se passe. Et tout ce que vous trouvez dans le Nouveau Testament, c'est une réplique de ça. En fait, ça, c'était ce qui annonçait ce qu'il allait se faire avec Jésus. D'accord? Alors, le livre de l'Exode est fondamental pour comprendre c'est quoi un adorateur. Il faut juste être capable, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, de dire en quoi ça s'est transformé. Regardez Exode 19, 4 à 6, vous l'avez dans vos notes. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. » Là, j'aborde le sujet de la vocation d'Israël. Dans ce passage-là, on voit que ce peuple est précieux. Dieu en a pris soin. C'est un peuple qui est précieux aux yeux de Dieu. C'est un royaume de prêtres, une nation sainte. On entre dans la vocation d'Israël, d'accord? Tout à l'heure, j'ai parlé de révélation, de rédemption, de l'alliance, puis de la vocation d'Israël. Ces quatre thèmes-là vont rester dans le Nouveau Testament. Puis lorsqu'on lit ça et qu'on est familier avec le Nouveau Testament, on voit déjà le projet de Dieu pour le Nouveau Testament. Un peuple précieux, un royaume de prêtres, une nation sainte. Tous ces thèmes-là contiennent l'idée d'une séparation d'avec les nations. D'accord? Israël devait être un modèle en étant différent. Israël a été racheté dans un but, être un modèle en étant différent. Si vous pensez au Nouveau Testament, c'est mur à mur dans le Nouveau Testament. Vivre au milieu en étant un modèle, en étant différent. Et cela implique que si dans mon adoration comme adorateur, je ne suis pas en train de chercher en quoi Dieu me demande d'être un modèle en étant différent, mais peut-être que je ne suis pas en train d'honorer l'alliance. Et si dans le Nouveau Testament, on est dans une nouvelle alliance, c'est encore là, ça. Voyez-vous que là, on ouvre des voies pour aller vers une conception de l'adoration qui parle de ma vie de tous les jours. Quand je viens le dimanche matin puis je viens louer le Seigneur, ça devrait être l'expression verbale de mon adoration de tous les jours. Si Israël a été racheté pour être un modèle pour les nations qui est à part, une nation sainte, sanctifiée, mise à part, et que nous sommes entrés dans une nouvelle alliance dans le Nouveau Testament, donc on est appelé à être une nation sainte, sanctifiée, mise à part, ça va être ça l'adoration. Donc là, je m'en vais vers la vie de tous les jours. À tous les jours, est-ce que je suis quelqu'un qui est saint, sanctifié, mis à part, un modèle différent? Je suis en train de parler d'adoration. Est-ce que c'est clair? Je vois beaucoup de points d'interrogation. Non? Denis, est-ce que tu me suis? OK, c'est bon. Merci de ta franchise. Je vais juste lire quelques lignes ici. Le Seigneur voulait illustrer au monde, à l'aide d'Israël, comment on vit dans le royaume de Dieu. Un peuple à part pour manifester la gloire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu a porté ses regards sur un peuple. Il a décidé de les racheter de l'Égypte. Il les a conduits dans une terre et il a dit « Maintenant, je vais faire une alliance avec vous avant d'entrer dans cette terre-là. Si vous acceptez de contracter cette alliance, vous allez être un peuple saint, un peuple acquis, un peuple différent. » Alors, je vais juste vous relire Exode 19, 4 à 6. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. » Les autres peuples n'appartiennent pas à l'Éternel. « Car toute la terre est à moi, mais vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, de prêtres, une nation sainte. » Et « saint » veut dire sanctifié, mis à part. D'accord? L'alliance que Dieu est venu contracter avec Israël faisait d'eux une nation à part. Alors le lien que je fais avec le Nouveau Testament, c'est est-ce que nous sommes entrés dans une alliance? Dans une nouvelle alliance? Est-ce que nous sommes appelés à être un peuple à part? Moi, je vous dis que ça, c'est la voie vers l'adoration. Bien comprendre l'adoration, c'est cette voie-là. Comprendre en quoi on doit être à part, en quoi on doit être un modèle. Oui. Okay.
C'était un peuple qui était mis à part parce que le Messie devait être issu de ce peuple-là. C'est un peuple de lumière.
Je vais juste arrêter parce que je n'aurai pas tout ça dans l'enregistrement.
En tout cas, je vois pas la...
Dans mon texte, je propose l'idée que Dieu avait choisi Israël pour être déjà un modèle pour toutes les nations de la terre, qui devait être attirant pour les nations de la terre. D'accord? Dans leur vie, Israël devait être attirant pour les nations de la terre. Ce qu'eux allaient vivre dans le pays devait être attirant pour les nations de la terre. Et c'est clair, lorsqu'on pense au Nouveau Testament, puis lorsque vous lisez les prophètes, Israël, je vais le dire comme c'est, est un échec. C'est un échec. Dieu l'avait annoncé. Dieu est souverain. Dieu le savait. D'accord? Dieu est un pédagogue. C'est à travers l'échec qui nous montre la gloire de ce que Christ accomplit. Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Dieu est souverain. D'accord? Mais Israël est un échec. Il y avait un modèle qui était là, et à un moment donné, vous commencez à lire les prophètes, puis là, ce que vous lisez, c'est « Attendez un peu, un jour, la loi, elle ne sera pas sur des tables, elle va être dans votre cœur. Et là, je vais accomplir ce que je voulais faire. » D'accord? Mais quand Jésus vient dans l'Évangile de Matthieu, qui rentre dans le temple, est-ce qu'il vient vers les prêtres pour dire « Écoutez les boys, vous avez fait de votre mieux jusqu'ici, on vous avait donné pas beaucoup d'informations, vous avez fait du mieux, je prends le lead à partir d'ici puis je vais vous expliquer vraiment c'était quoi le plan de match. » C'est pas ça qui se passe. Il leur adresse des reproches parce qu'ils n'ont pas vécu ce qui avait été donné. C'est un échec. C'est le cœur de l'homme, c'est la rébellion de l'homme. Ça devait être comme ça, je suis d'accord. Mais c'est un échec. Et Israël, quand je parle de paix, je ne parle pas qu'Israël devait être en paix avec toutes les nations de la terre. À l'intérieur d'Israël, il y avait des lois civiles, des lois morales qui devaient permettre des relations harmonieuses. Quand l'étranger venait en visite chez toi, tu devais accueillir l'étranger. Tu devais bien te comporter avec lui. Et donc, à l'intérieur d'Israël, Israël devait montrer c'est quoi vivre dans le royaume de Dieu. Restez avec moi, ça c'est vraiment important comme expression. Israël devait illustrer qu'est-ce que c'est vivre dans le royaume de Dieu. Vous êtes avec moi? Ce matin dans la prédication, c'est drôle là, parce que je préparais ça, là. Ce matin dans la prédication, vous allez voir, Jésus va dire, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Ah, ça veut dire qu'il leur avait été donné. Un royaume, c'est quoi? C'est une terre où il y a un peuple puis un roi. C'était une terre où il y avait un peuple, il y avait un roi. Dieu leur avait donné un roi terrestre, mais en réalité, il était là pour porter le message du roi céleste. Puis ils devaient vivre dans ce royaume-là de manière harmonieuse, en paix les uns avec les autres, de manière différente des autres nations. Puis à travers ça, on devait découvrir, OK, c'est ça, on était créé pour ça. Les nations environnantes auraient dû, en regardant Israël, pouvoir dire, aïe, aïe, c'est ça le plan de match. C'est pour ça qu'on est sur la terre, les boys. Regardez, là, si on fait comme les Juifs en Israël, là, on va tous être heureux. Et c'est à ça que devait servir Israël. Israël était un modèle du royaume de Dieu. Le royaume était là sur la terre en Israël. D'accord? Est-ce que ça éclaire un petit peu mon idée, Camille? Merci. Pourquoi il ne l'a pas été? Pourquoi il ne l'a pas été? Parce que Dieu avait décidé qu'il montrerait que l'homme n'est pas capable d'y arriver par lui-même et que ça prendrait un cœur nouveau. Et ça, c'est toute la pédagogie de la Bible. C'est un des éléments qui est parfois difficile pour nous à accepter. C'est le fait que Dieu décide de passer des générations à enseigner tranquillement. Puis Dieu a décidé que Jésus venait juste là. Il ne venait pas là. On est à cette étape-là. Diane demande si on est à l'étape où la loi est écrite dans le cœur de l'homme. Bibliquement, avec l'Esprit-Saint qui habite en nous, la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs. On lit les Écritures et ça devrait amener des « Amen » de notre cœur qui disent « Ah oui, c'est ça, c'est pour ça que l'Évangile est comme ça, je sais que je dois vivre comme ça. » Et donc, la loi est écrite dans le cœur des croyants, la loi de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus l'a résumé à « Aime Dieu, aime ton prochain. Suis ça, vis-le par l'Esprit, tu vas vivre la loi et les prophètes. » D'accord? On continue. Donc, simplement une phrase là, que je place au milieu de la page 4. « Dès l'Ancien Testament, l'adoration est donc conçue comme une orientation fondamentale de la vie. » Quand vous allez dans l'Ancien Testament, puis vous arrêtez juste au service qu'il y avait au temple, puis au fait qu'il y avait des fêtes juives, puis vous dites, ça c'était l'adoration, ils allaient fêter, donc ça c'était l'adoration. C'est faux. Israël devait être une nation sainte. C'était pas juste les prêtres. Vous savez, les prêtres se purifiaient, tout ça, puis une fois par année même, ils aspergeaient le temple, puis ils aspergeaient les prêtres eux-mêmes pour se sanctifier. Ils étaient juste des représentations du peuple. Mais tout Israël était censé être une nation sainte. Si tout Israël est une nation sainte, marche dans la sainteté, leur adoration, ce n'est pas juste aller au temple une fois par année. C'est marcher dans la sainteté. C'est ça leur adoration. Être un adorateur de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est vivre une vie différente des autres personnes. Est-ce que je le dis clairement comme ça? Être un adorateur de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est vivre différemment parce que j'ai été racheté. Quand je le dis comme ça, mais je pourrais dire être un adorateur dans le Nouveau Testament, c'est vivre différemment parce que j'ai été racheté. Voyez-vous, là, on parle de continuité. On va juste aller voir comment ça se transforme. Mais donc, lorsque je regarde l'Ancien Testament, puis que je lis l'Ancien Testament, puis je vois la rébellion d'Israël, au lieu de dire « boy, qu'il avait la tête dure », je devrais constamment être en train de dire, « Seigneur, est-ce que je suis comme ça? » Parce que je suis dans une alliance, j'ai été racheté et je suis appelé à vivre différemment. On ne devrait pas regarder Israël de haut. D'accord? On devrait chercher en quoi on essaie de faire mieux qu'eux. Mais on essaie de faire mieux. Tirer les leçons. L'adoration et le culte. Le tabernacle. En Israël, la présence divine ne devait être associée à aucune image, car aucune forme n'avait été vue lorsque Dieu avait parlé du milieu du feu au mont Horeb. Alors, c'est sûr que depuis le début de la leçon, ceux qui sont nés dans l'Église catholique, vous ne pouvez faire autrement que de voir que l'Église catholique n'a pas su ce qui est là où il y avait des discontinuités. D'accord? Une église catholique, c'est une représentation du tabernacle de l'Ancien Testament. C'est bâti comme le tabernacle, avec les prêtres qui sont en avant, qui ont une connexion spéciale avec Dieu. On attaque l'Évangile tout le long. L'Évangile, c'est une nation de prêtres. Tout le monde a accès à Dieu. Dans l'Église catholique, non, c'est pas ça. Il y a quelques prêtres qui ont accès à Dieu. On retourne dans l'Ancien Testament. Ce que Jésus a fait, c'est totalement incomplet. Retournons dans l'Ancien Testament. Ben là, c'est ça. Là. On est même rendu avec des représentations, des images, des choses à adorer, d'accord? En Israël, la présence divine ne devait être associée à aucune image, car aucune forme n'avait été vue lorsque Dieu avait parlé du milieu du feu au mont Horeb. Sa présence se manifeste par la présence de la maison de Dieu. La tente sacrée qui était le tabernacle devait proclamer et exprimer la présence permanente de Dieu au milieu de son peuple. Alors, je vous pose une question encore. L'idée de présence de Dieu au milieu de son peuple, c'est très important dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est là dans le Nouveau Testament? Où est-ce que vous voyez, je vous demande juste de l'écrire, vous avez deux lignes. Où est-ce que vous voyez dans le Nouveau Testament la notion de présence de Dieu? Avec son peuple. Juste des mots là, clés que vous écrivez. En quoi on voit que cette idée-là pourrait ou ne pourrait pas être importante? Est-ce qu'il y en a qui ont manqué de copies ce matin, qui en auraient voulu? Juste pour que je sache combien on en fait. D'accord. On va faire un petit peu plus pour la semaine prochaine. Si vous êtes sur la liste d'envoi de courriel, vous allez le recevoir mardi par courriel. Pardon? Oui, c'est ça. Ceux qui sont en couple, évidemment. C'est pour ça que j'en ai fait un peu moins que le nombre qu'on serait. Oui, ça ne sera pas long. On est à la page 5. Comme vous voyez, là, je vous le dis, je vais vite, mais on va revenir sur ces concepts-là lorsqu'on va être dans le Nouveau Testament. La prêtrise, les sacrifices et la gloire de Dieu. Alors, Dieu est invisible, ça c'est clair. D'accord? Dieu ne se manifeste pas de manière visible dans l'Ancien Testament. En tout cas, pas comme on pourrait le concevoir nous. Mais quand il s'exprime ou manifeste sa présence, l'Ancien Testament parle de la révélation de la gloire de Dieu. C'est un des thèmes qui va revenir dans le Nouveau Testament, lorsqu'on va parler de Jésus. D'accord? Dieu se cache afin de se révéler à son peuple de manière limitée. La gloire de l'Éternel, voilée par une nuée comme au mont Sinaï, devait se manifester dans le tabernacle et conduire le peuple d'Israël jusqu'au pays promis. Le rapprochement de la gloire divine et du tabernacle, et plus tard avec le temple de Jérusalem, indique que le sanctuaire devait constituer l'endroit où l'on pourrait connaître et rencontrer Dieu. Alors, la présence de Dieu, c'est un thème important. Si ça ne vous venait pas à l'esprit tout à l'heure, c'est un thème important dans le Nouveau Testament, je vous le dis tout de suite. C'est un thème vraiment important. En quoi ça va changer? On va le voir dans les prochaines semaines. Dans le passage biblique que je vous cite ici, Exode 29, si vous allez vers la fin, là, en fait, la dernière phrase, « J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu et ils sauront que c'est moi l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Oui, je serai l'Éternel, leur Dieu. » Alors, cette idée que Dieu habite au milieu de son peuple, c'est une des idées fortes de l'Ancien Testament. D'accord? Le nom et la présence de Dieu. Juste un commentaire, j'ai trouvé ça intéressant que ce soit relevé, là. En bas, les Exode 32 à 34. Si vous lisez Exode, vous avez comme l'impression qu'il y a une fausse conclusion. C'est comme s'il faudrait que ça arrête à 31. La prochaine fois que vous le lirez, vous le remarquerez. Mais les versets qui suivent 32 à 34 sont importants. Il dit très, très bien ici, ces chapitres montrent comment un peuple coupable et obstiné peut demeurer en relation avec un Dieu saint. Okay, fait que c'est l'idée de l'alliance, Israël qui manque à l'alliance, puis que Dieu abandonne pas complètement, et comment ils vont rester en relation avec ce Dieu saint-là. Ça, on trouve ça dans ces trois chapitres-là à la fin. Le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, oui, c'est strictement le même, mais c'est celui qui s'est dévoilé davantage lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament. C'est exactement le même, c'est important. Là, tu t'en vas dans les noms de Dieu. l'Éternel dans l'Ancien Testament, comment est-ce qu'il s'est révélé. C'est sûr que la Trinité n'était pas révélée dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. D'accord? Mais c'est le même Dieu qui se dévoile davantage. Ce n'est pas un Dieu différent. On va lui découvrir d'autres noms, on va mieux comprendre comment il est, parce que Dieu ne s'est jamais révélé aussi bien que dans la personne de son Fils. Alors, lorsque Dieu vient au milieu de nous, dans la personne de son Fils, on a une révélation de Dieu comme jamais avant. Au haut de la page 6, l'accès à Dieu est donc strictement limité, comme le souligne l'ensemble des règles culturelles de la suite du Pentateuque. D'accord? Ça va être un élément de discontinuité. Lorsqu'on va arriver dans le Nouveau Testament, le voile est déchiré, l'accès devient entier pour tous les hommes. Là, c'est quelque chose qui va se transformer quand j'arrive dans le Nouveau Testament. Une phrase qui résume bien aussi, c'est celle qui suit. L'Ancien Testament le répète sans cesse, on ne peut s'approcher du Dieu saint que de la façon qu'il prescrit et rend possible. Et si je fais encore un lien avec notre époque, nos contemporains au Québec n'acceptent pas l'idée que tu vas t'approcher d'un Dieu d'amour seulement à ces termes et conditions. Quand vous parlez de Dieu avec vos contemporains, puis vous leur parlez d'un Dieu qui a mis des conditions, qui demande la sainteté, qui dit qu'il faut croire en Jésus seulement, en fin de compte, vous êtes en train de dire que c'est Dieu qui détermine les termes et conditions pour s'approcher de lui. Nos contemporains n'acceptent pas cette idée-là. D'accord? Pourtant, ils le font tout le temps. Dans leur relation amoureuse, ils ont plein de conditions. Puis tu vas m'aimer et on va être proche l'un de l'autre si tu respectes mes conditions. Me respecter, c'est savoir qui je suis, me comprendre, puis respecter ce que je suis comme personne puis ce que je veux. Non? Alors, ils le font constamment, dans leurs amitiés, dans leurs relations amoureuses. Mais Dieu est autre. Et Dieu n'a pas de termes et conditions. Excusez-moi de le mettre dans ces termes-là, mais c'est un manque d'intégrité intellectuelle et de ne pas vouloir reconnaître que c'est eux qui se prennent pour Dieu et qui veulent définir Dieu comme ils le veulent. D'accord? C'est juste qu'ils renversent la patente. Mais je vous dirais que cette pensée-là est très forte et c'est tentant pour nous aussi d'entrer en lutte avec Dieu. Voilà 100 ans, voilà 200 ans, si tu lisais dans les Écritures que Dieu est comme ça et que les choses se passent comme ça, il y avait une crainte de Dieu qui t'amenait à dire, je ne comprends pas, mais ça doit être comme ça que ça se passe. Cette différence-là n'est plus là et c'est vrai que ça fait partie de ce que nous sommes comme personnes aussi. Nous allons contester avec Dieu beaucoup plus facilement. Laissez-moi faire une allusion à Haïti. Ces gens-là passent par des épreuves comme on ne passera jamais probablement dans notre vie. Et il y a une crainte de Dieu là-bas, un respect pour Dieu. Combien d'Haïtiens vous avez entendu rejeter Dieu puis attaquer Dieu? D'autres, on perd notre job puis on s'en prend à Dieu. Pas notre maison, notre famille, nos enfants, notre avenir. Notre job. 6 mois. Finalement, je pense qu'il n'existe pas, il n'est plus là. Voyez-vous, il y a une crainte là, qui n'est plus là, là. Mais Dieu est Dieu. Dieu dicte. Dieu décide. Il est Dieu. C'est à ces termes et conditions qu'on va s'approcher de lui. C'est très fort dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que Dieu sort les trompettes au mont Sinaï. Il sort les speakers, il est au maximum, puis là, il dit, il faut que vous compreniez quelque chose. Si on doit être en relation ensemble, il faut que vous compreniez quelque chose. Là. Tant que vous n'aurez pas peur, vous n'aurez pas compris. Et il leur fait peur. Littéralement. Parce qu'il dit, je suis autre, je suis différent de vous, et si en vous approchant de moi, vous ne réalisez pas à quel point, juste entrer dans ma présence, vous seriez désintégré à l'instant. Si vous ne saisissez pas cela, comment on va pouvoir être en relation ensemble? Maintenant, quand je commence à découvrir à quel point Dieu est grand, j'accepte l'idée que je vais approcher Dieu avec, selon ses termes et conditions. Ça, c'est l'alliance qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Je vais m'arrêter ici pour ce matin. On va finir la semaine prochaine. C'est un des plus gros chapitres, d'accord? Fait que j'essayais de, mais non. Voilà. Alors, vous allez probablement recevoir quand même, ceux qui sont inscrits à la liste d'envoi, les notes pour l'autre, d'un coup que je le commence la semaine prochaine. Je vais les apporter aussi dimanche prochain. Et puis, on va faire quelques copies supplémentaires pour dimanche prochain. La feuille de présence est en circulation. Ceux qui se joignent à nous pour la première fois cette semaine, quand vous venez au cours, je vous demande de vous asseoir devant les colonnes, s'il vous plaît. Ça m'aide à voir qui est avec moi et qui est de passage, d'accord? Je vous demande de signer la feuille de présence. Ça nous aide à suivre juste l'implication de l'Église dans les cours. Est-ce que les gens sont là? Est-ce qu'ils persévèrent? Tout ça. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, inscrivez votre adresse courriel sur la liste de présence parce que vous recevez soit à l'avance, soit en retard, mais vous recevez toujours les notes du cours. Et elle est rendue dans ce coin-là pour l'instant, la feuille de présence est en circulation. D'accord? Le cours, cette session-ci, est enregistré aussi. Ça, j'aurais dû le mentionner la semaine dernière. Alors, si jamais vous manquez une leçon parce que vous êtes à l'extérieur, vous pouvez nous suivre de Tombouctou. Juste aller sur le site Internet, vous allez pouvoir suivre les leçons. Merci beaucoup. Les notes sont à côté du MP3. Tout est là. Merci.